Bonsoir. Tremblement de terre dans la région de Grand Lac, des morts et d'importants dégâts matériels à Bukavu. Un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a secoué hier la ville de Bukavu et ses environs. Le cas de Goma et des pays de la région des Grands Lacs tels que le Rwanda, plus touchés que Bukavu. Tremblement suivi de deux répliques importantes, d'autres sont à craindre selon des experts. Le séisme a continué à secouer Bukavu toute la nuit dernière. La population a passé la nuit à la Belle Étoile. Elle craint d'être engloutie par des murs qui s'écroulent. Quel est le bilan actualisé de ce séisme à Bukavu? Comment réagissent les autorités congolaises? Et comment prévenir ce genre de catastrophe en RDC? C'est le sujet de cette émission Dialogue en Congolais. Au niveau des auditeurs de Radio Okapi, fidèles à cette émission, vous posez aussi des questions comme celle de Kaba Wassi de Butembo. Pourquoi le centre vulcanologique de Goma, demandez-vous, n'a pas prévenu la population? Le centre, toujours selon vous, savait-il qu'il y aurait tremblement d'une telle magnitude? À Bukavu même, lieu du séisme, Robert Baumé s'interroge aussi en ces termes. Est-il possible de prévenir réellement les séismes, pourtant des phénomènes naturels difficilement maîtrisables? Concernant l'assistance aux victimes, John Peter Kezamoudrou de Bissiro en province orientale veut savoir à quel niveau s'élève la contribution financière et matérielle du gouvernement de la RDC avant l'intervention des organismes internationaux. Comme invité, nous recevons Jean-Claude Muyambo-Kiaspa. Il est ministre des Affaires humanitaires du gouvernement central. Il fait partie d'une équipe gouvernementale conduite par le ministre d'État de l'Intérieur qui séjourne actuellement à Bukavu. Nous avons aussi Jacques Durieux. Il est chef du projet de Nations Unies, unité de gestion des risques volcaniques à Goma, ainsi que le professeur Zana Ndontoni du Centre de recherche en géophysique de Kinshasa.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Tremblement de terre dans la région de Grand Lac, des morts et d'importants dégâts matériels à Bukavu au sud Kivu. Quel est le dernier bilan actualisé ce soir? Guy Roger Nyampala a joint à ce sujet notre confrère Michel Kirumomi qui a suivi pour nous cette situation à Bukavu.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Guy Roger.
Michel, quelle est la situation aujourd'hui, un jour après le tremblement de terre?
Ce matin, Bukavu s'est réveillé sous le choc. Les répliques du tremblement ont continué toute la nuit, mais aujourd'hui, on s'est concentré sur la protection de la population et à la prévention de nouveaux sinistres. Les élèves n'ont pas étudié, les autorités ont décrété depuis ce lundi 2 jours d'arrêt des activités.
Si on revenait sur l'événement de ce dimanche, comment cela se passait? Vous avez été témoin de certains moments forts du désastre?
Oui, Guy Roger, nous avons vécu ça heure après heure. Après le premier choc du tremblement d'une magnitude de 6 sur la échelle de Richter et la panique qui s'en est suivie, les heures ont passé dans la crainte de nombreuses répliques qui se sont manifestées à Bukavu toute la journée d'hier, pendant la nuit et même jusqu'à ce soir.
Et quel est le bilan pour le moment, Michel?
Au total, on peut parler de 8 morts et plus ou moins 300 blessés. Ce bilan comprend les victimes cumulées de la ville de Bukavu et du territoire de Kabare. Dans certains hôpitaux de la ville, on a continué à recevoir de nouveaux blessés jusqu'à ce matin. À l'hôpital de Panzi, on est passé à 53 hospitalisés ce lundi matin. Le médecin responsable dit que ce chiffre est à la limite de la capacité de son établissement. À l'hôpital général de référence de Bukavu, selon le docteur Mouézé, 45 blessés ont été internés. À propos de la prise en charge, à l'hôpital général de référence de Bukavu, le médecin directeur dit que les victimes du tremblement sont prises en charge gratuitement. L'hôpital a reçu un coup de main des agences humanitaires. Côté dégâts matériels, on parle de 160 maisons tombées à terre et plus de 1500 touchées par des fissures importantes. Il est à noter que les bâtiments de référence de la ville comme le collège Al-Fajiri, la poste, l'hôtel résidence ont tous d'une certaine façon été touchés.
Et enfin, la question de l'assistance humanitaire. Il y a eu une cellule de crise mise sur pied dimanche. Que pensent les humanitaires de la prise en charge après l'appel du gouverneur de province ad intérim dans la réunion tenue à cette intention?
Les agences humanitaires se mobilisent à leur tour pour venir en aide aux victimes de ce séisme. Après avoir coordonné avec les autorités provinciales, ces organisations internationales et agences des Nations Unies disent être en mesure de prendre en charge les quelques 200 blessés ainsi que les sans-abri enregistrés jusque-là.
Et que va-t-il se passer maintenant?
Maintenant, oui, une forte délégation des parlementaires et notables originaires du Sud Kivu vient d'arriver à Bukavu en début de soirée sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ces personnalités disent venir consoler la population du Sud Kivu après le séisme. Les autorités de la ville déconseillent toutes les réunions dans des églises ou des lieux publics. Ce soir à Bukavu, de nombreuses familles passeront encore la nuit en plein air, soit parce qu'ils ont tout perdu, soit parce qu'ils craignent l'effondrement des murs dans leurs habitations.
Merci, Michel Chirimoy.
Merci, Guy Roger.
Voilà, on a suivi, il y a des parlementaires originaires du Sud Kivu qui sont sur place, mais il y a aussi une équipe gouvernementale. Dans cette équipe, on retrouve justement le ministre des Affaires humanitaires, Jean-Claude Muyambo-Kiassa, qui est avec nous dans cette émission. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de votre présence à Bukavu après ce tremblement de terre?
Bon, écoute, on vient à peine d'arriver il y a 2 heures. Comme vous le savez, nous sommes arrivés à 16h30, heure locale, à l'aéroport de Kavumu. De là, pour arriver en ville, ça nous a pris quand même un peu de temps. Bon, nous avons eu une première réunion avec le gouverneur AI de la province.
Oui.
Et de là, la réunion encore continue avec les spécialistes qui sont venus de Goma. Et on est en train de faire un état des lieux et voir dans quelle mesure, à partir de demain matin, commencer à intervenir.
Mmh. Et vous comptez intervenir comment, monsieur le ministre?
Écoute, ce qui est vrai, j'ai eu un état de besoin en médicaments. Alors là, le gouvernement central a pu quand même amener 14 tonnes de médicaments.
Mmh.
Il y a un peu tout. Puisque je suis accompagné par des spécialistes, j'ai amené avec moi des médecins de l'hôpital d'Engaliema, dont le docteur Pai Pai, les médecins militaires de Kankokolo, puisque comme vous le savez très bien, ils ont un centre mobile qui se trouve à Goma, qu'on va dès demain déplacer ça de Goma jusqu'ici à Bukavu. Comme on vous a dit, il y a beaucoup de blessés. Et je pense avec les lois importantes que le gouvernement vient d'apporter, on va essayer un peu de voir comment il faut soigner toutes ces victimes.
Oui. Et puisque beaucoup de gens, évidemment, au niveau de la population, se posent la question justement sur ce tremblement de terre, comment il est arrivé, Jacques Durieux, vous êtes chef du projet des Nations Unies, unité de gestion des risques volcaniques à Goma. Votre première réaction sur ce qui s'est passé à Bukavu et dans la région des Grands Lacs, puisque vous l'avez vécu, vous intervenez depuis Goma.
C'est fortement ressenti. Il y a même pas, sans qu'il y ait de destruction à Goma. Ce que l'on peut dire du séisme, c'est que c'est un séisme d'origine tectonique. C'est le rift est-africain qui a bougé, et cela fait partie de la vie normale de la Terre. Ce séisme, comme tous les grands séismes, a été suivi de différentes répliques. Je dirais que c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène qui est normal. Nous vivons sur une planète vivante et cette planète bouge de temps en temps à différents endroits du globe.
Est-ce que, professeur, Zana Ndontomi, vous êtes du Centre de recherche en géophysique de Kinshasa, est-ce que vous pouvez vous confirmer, comme le dit Jacques Durieux, que ça reste un phénomène normal?
Oui, de ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé de longues années au centre de recherche en sciences naturelles à l'UIRO, au département de géophysique. J'ai fait ma spécialisation en géophysique, spécialement en sismologie.
Oui.
Et donc, j'ai parcouru l'activité sismique de la région des rifts. Pratiquement depuis les premières données, et la toute première donnée sur l'activité sismique du rift remonte à 1910. Le 10 décembre 1910, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 7 à la pointe sud de l'Atlantique, et c'est la première donnée instrumentale sur la sismicité du rift de Grand Lac, c'est-à-dire la frontière est de notre pays.
Oui.
Depuis, il y a eu des événements du même ordre de grandeur en 1936, en 1956. Le plus récent, disons mieux enregistré, c'est le tremblement de terre d'Ouvira le 5 septembre 1960, suivi du tremblement de terre de Béni de magnitude 7 le 20 mars 1966. Je peux continuer ainsi l'énumération.
Mais vous ne citez pas Bukavu. Est-ce que ça veut dire que Bukavu, c'est la première fois?
Pour Bukavu, il y a eu le tremblement de terre de Kaléye au mois d'octobre 2002. Je pense que celui-ci, avec le tremblement de terre de Kaléye en 2002,
est-ce qu'on peut comparer les deux?
Nous pouvons considérer comme celui-ci comme un événement un peu précoce. On a pensé que les tensions accumulées dans cette région auraient été suffisamment dégagées lors du tremblement de terre de 2002. Ce que je peux dire, c'est que le tremblement de terre de Bukavu n'est pas pour les géophysiciens une surprise.
Comme ça, c'est pas une surprise.
Comme Jacques vient de le dire, le rift de Grand Lac, le fossé tectonique de Grand Lac, ou tout simplement toute notre frontière est, depuis le lac Albert, lac Édouard, lac Kibou, etc., jusqu'au lac Tamanika, se trouve dans une zone d'émanation, une zone de convection des chaleurs, des matériaux qui viennent des entrailles de la terre. Et c'est cet apport de matériaux légers
qui a
provoqué l'effondrement et la création de ce fossé tectonique. Et donc, nous sommes dans une zone où le tremblement de terre est un phénomène régulier.
Et tout à fait normal.
Tout à fait normal du point de vue de l'activité interne du globe.
Ouais.
C'est pas une surprise.
Ouais.
Et donc, c'est
normal que ça soit arrivé.
C'est normal que ça soit arrivé et ça arrivera.
Oui. Jacques Durieux, est-ce que, puisqu'on a le nombre, dans le bilan, on parle de 8 morts au niveau de Bukavu et près de 300 blessés, mais on a suivi les différents éléments, l'entretien de nos confrères, on parle des répliques, hein, des répliques qui se sont manifestées après ce tremblement de terre. Est-ce qu'on peut encore craindre d'autres victimes?
Je voudrais vous dire oui et non. Les répliques, c'est un phénomène normal. C'est comme un peu l'écho du séisme. C'est un réajustement mécanique qui se produit au niveau du rift. Il est d'ailleurs à remarquer que ces répliques ont lieu aujourd'hui sur l'autre bordure du rift, c'est-à-dire sur le versant rwandais du lac Kivu, tel que ça s'est produit après le frontière de Calais. C'est vraiment un réajustement mécanique de la zone. Ces répliques vont perdurer. Elles peuvent durant plusieurs heures.
Excusez-moi, Jacques Durieux, c'est juste pour permettre aux auditeurs de mieux nous suivre. Les répliques, ça dit que la terre continue encore à trembler un peu, si on peut le dire.
Voilà. Les répliques, ce sont des petits tremblements de terre, ce sont des petits chocs qui sont un peu comme l'écho du choc principal qui a tout déclenché. Et ces répliques peuvent durer plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans les cas de grands tremblements de terre. En général, ces répliques ont une intensité, une magnitude inférieure au choc principal. Donc elles sont a priori moins dangereuses. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Parce que les maisons des bâtiments ont été fracturées, fissurées, endommagées par la secousse principale, et une secousse de magnitude inférieure risque de se faire effondrer des bâtiments qui ont déjà été fragilisés au départ. Donc aujourd'hui, il convient d'être extrêmement prudent face aux bâtiments qui ont été endommagés par la secousse principale.
Alors, monsieur le ministre, Jean-Claude Mouyambo Kessa, ministre des Affaires humanitaires, vous avez suivi, il y a eu effectivement des bâtiments rasés, on parle des murs, des marchés qui sont tombés, vous êtes à Bukavu, vous le voyez très bien. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, pour les bâtiments qui sont tombés? Est-ce que vous, au niveau de l'équipe du gouvernement qui est arrivée là-bas, est-ce qu'il y a une aide dans ce sens-là envers la population?
Oui, effectivement, en arrivant cet après-midi dans la ville de Bukavu, il y a effectivement des endroits où on va s'aligner. Et je pense, demain matin à partir de 7h, nous avons prévu une visite pour aller voir effectivement et nous rendre compte nous-mêmes de ce qui s'est passé réellement dans la ville de Bukavu. Mais ce qui est vrai, au niveau du marché de Nyawera, et ça se voit comme ça que... Et il y a une partie de mur qui est tombée. Alors, dire que le gouvernement va faire quoi, c'est comme je vous dis, je suis le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos compatriotes. Mais ce qui est vrai, il y a déjà... le président de FEC Sud Kivu, qui a pu faire quelque chose avec une aide en vivres et en médicaments. Mmh. Alors, je verrai moi aussi avec nos experts ce que nous pouvons faire. Mais écoute, c'est le dégât, c'est un dégât énorme, mais je tâcherai de voir comment essayer un peu de soulager les plus vulnérables. Mmh. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes. Au moment où il y a eu ce phénomène ici à Bukavu, je me trouvais à Kikwit, là où il y a eu inondation. Au moment où on essaie de résoudre les problèmes à Kikwit, voilà. Ça arrive, c'est un phénomène naturel, c'est tout à fait normal, nous ne devons pas nos responsabilités.
Oui, donc vous avez du pain sur la planche, monsieur le ministre. Mais j'insiste parce qu'il y a une question d'un auditeur, John Peter Kézamoudrou, du Turo en province orientale. Lui, il veut savoir à quel niveau s'élève la contribution financière et matérielle du gouvernement de la RDC avant l'intervention des organismes internationaux. Je crois que vous avez peut-être répondu, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, avant de parler un peu sur l'assistance internationale qu'il y en a jusque-là.
Mais vous savez, nous devons être conscients. Quand il y a un problème, nous devons tout d'abord savoir comment nous devons nous prendre en charge. C'est ce qui est important. C'est pour ça que je m'occupe aussi de la solidarité nationale. Et on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est quand on essaie de fournir les efforts, à ce moment-là, que la communauté internationale aussi va voir dans quelle mesure il faudrait qu'elle puisse nous aider. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui le montant c'est combien. Je vous ai dit en termes de médicaments, nous avons amené 14 tonnes.
De médicaments,
oui. Et demain...
Est-ce que seulement des médicaments? Est-ce que vous avez amené que des médicaments?
Jusque-là, oui, des médicaments, puisque c'est ce qui était urgent, puisque les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas de médicaments qu'il fallait amener. Ça, nous avons amené 14 tonnes. Mmh. Mais à partir de demain, j'ai amené des experts. Nous avons fait un état des lieux. C'est à l'issue de cet état des lieux que nous allons calculer maintenant les dégâts. C'est à ce moment-là que nous allons maintenant intervenir. On ne peut pas dire aujourd'hui, écoute, nous allons remettre à la ville de Bukavu 100 dollars, 100 000 ou bien 1 million de dollars. Non, c'est-à-dire nous devons sans avoir évalué, nous devons tout d'abord évaluer.
Merci, M. le ministre. Tremblement de terre dans la région des Grands Lacs, des morts et d'importants dégâts matériels à Bukavu. Comment prévenir ce genre de catastrophe en RDC? C'est pour la deuxième partie de ce dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h hors de Kinshasa au 099-899-222.
Comment prévenir en RDC des catastrophes pareilles au tremblement de terre qui a frappé Bukavu, le Rwanda, bref, la région des Grands Lacs? On retourne à Bukavu pour suivre le témoignage d'un habitant de cette ville. Il décrit comment il a vécu ce tremblement de terre.
Ça a été un violent tremblement de terre. Moi, j'ai grandi à Goma, j'ai jamais vécu un tel tremblement de terre, jamais. C'est la première fois que je vis un tremblement d'une telle intensité. J'habite la ville de Bukavu, le quartier Nyawera. Et donc, c'était aux alentours de 9h30, j'étais à la maison, et quand tout à coup, la terre s'est mise à trembler, alors le temps de réaliser que c'était un tremblement de terre, on a fait rester la maison, et à ce moment-là, les secousses ont été vraiment violentes. Ça a duré quelque chose comme 7 à 8 secondes, je crois. Et puis après, ça s'est calmé, et on a commencé à entendre des gens crier dans le voisinage, et à ce moment-là, on est sorti pour voir un peu. Les dégâts matériels, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, une face du marché de Nyawera qui s'est écroulée, et il semble qu'il y a eu des victimes à cet endroit-là. Dans un autre quartier de la ville, il y a des murs qui se sont effondrés sur sur les occupants d'une maison. Il y a eu deux ou trois blessés dans la, parce que c'est la maison en question est juste en face du bureau où je travaille. Donc ce matin, je viens de constater qu'il y a toute une staff qui s'est écroulée et on m'a dit qu'il y a, dans la maison, on a sorti 3 blessés graves. Et quand vous faites un petit tour, là, vous constatez très visiblement qu'il y a des fissures, il y a des murs qui se sont effondrés, il y a des traces, quoi, il y a des traces.
Nous vous l'avons dit au début de cette émission, le Rwanda est également touché par ce tremblement qui a secoué Bukavu. 37 morts, plusieurs blessés, des bâtiments partiellement ou entièrement détruits au Rwanda. Bilan du tremblement de terre qui a touché l'ancien district de Cyangugu. Information livrée aujourd'hui à Radio Okapi par le ministre rwandais à la primature chargé de l'information, le professeur Laurent Moussi, au téléphone de Nazaire Koko, suivant-le.
Nous avons déploré des pertes humaines. Et je crois qu'il y a eu 37 personnes qui sont décédées. Et il y a eu également des grands blessés qui ont été évacués sur Kigali. À 18, parce qu'ils ont été évacués par un hélicoptère. Là, nous avons le chiffre exact. Et puis, alors, il y a eu des bâtiments qui ont été partiellement ou totalement endommagés. Nous n'avons pas à l'heure actuelle de compte exact.
À peu près combien de populations ont perdu leur logement du fait de ce séisme?
C'est difficile à évaluer. Il y a l'unité de gestion des catastrophes qui est sur place et qui est en train d'évaluer. Là, je ne peux pas vous donner le chiffre exact.
Comment les secours s'organisent-ils?
Les secours se sont évidemment vite organisés, que ce soit au niveau de la population elle-même qui a apporté aide aux compatriotes, mais aussi au niveau du gouvernement central qui a envoyé les médecins, mais aussi au niveau de l'armée, de la police. Tout le monde a été mobilisé pour aider la population.
Alors, autour de cette question, de ce tremblement de terre, un débat au niveau des auditeurs. D'abord, Kabawasi de Butembo, pour lui, pourquoi le centre vulcanologique de Goma n'a pas prévenu la population? Ce centre, savait-il qu'il y aurait un tremblement d'une telle magnitude? D'abord, votre question, votre réponse, Jacques Dureux, parce que il y a ce qui semble être même la réponse à cette question, c'est celle de Robert Bahomé. Lui, il dit, est-il possible de prévenir réellement les séismes? Pourtant, des phénomènes naturels difficilement maîtrisables. Alors, je vous retourne la question, Jacques Dureux. Pourquoi, vous qui êtes des Nations Unies dans cette unité de prévention des séismes, comment est-ce que le centre de Goma n'a pas pu prévenir justement ce phénomène?
Alors, je crois qu'il faut être très clair. Dans l'état actuel de la recherche scientifique, il est impossible de prévoir des séismes, des tremblements de terre.
Pourquoi?
Preuve en est, les catastrophes qui touchent et qui font des victimes et de nombreux dégâts matériels au Japon ou aux États-Unis, qui pourtant mettent des moyens financiers énormes dans la recherche scientifique. La science actuelle ne peut pas prévoir des commentaires, peut-être que dans le futur nous le pourrons, mais aujourd'hui nous n'avons pas de signaux précurseurs qui permettent d'anticiper de tels événements. À la différence, il faut le dire, des éruptions volcaniques qui, elles, présentent des précurseurs qui permettent une prévision. Donc, pas de prévision. Il y a par contre des préventions possibles, c'est-à-dire qu'il y a moyen de limiter les risques de tels tremblements de terre.
Comment on peut
les exemple,
Comment?
Par exemple, en travaillant sur l'habitat, en appliquant des normes parasismiques à la construction des bâtiments, on rend ceux-ci moins fragiles, plus résistants par rapport au séisme.
Est-ce que, professeur, vous êtes de cet avis que la science, peut-être que le centre géophysique de Kinshasa où vous travaillez, peut-être lui a pu trouver cette solution, parce que Jacques Dureux dit que jusque-là la science est limitée?
Oui, effectivement, en ce qui concerne la prédiction des tremblements de terre, je peux dire que pour le moment, les géophysiciens sont en quelque sorte un peu dans une situation de désarroi.
Vous êtes limité.
Nous sommes limités. Je prendrai comme exemple, dans les années 70, les sismologues de par le monde ont accumulé l'enregistrement des anomalies, c'est-à-dire des phénomènes précurseurs,
où
notamment au Japon, en Chine, aux États-Unis. Et ces précurseurs sont de quelle nature? Sont de nature parfois assez complexe. Par exemple, on mesure continuellement les tremblements de terre qui se produisent dans une région, et on mesure ce qu'on appelle la vitesse de propagation des ondes sismiques, spécialement des ondes P. On ne va pas entrer dans le détail. Et lorsque il y a une anomalie dans la vitesse de propagation, il se produisait de temps en temps des séismes dans cette région. Il y a aussi des anomalies qui sont liées à la déformation de la croûte terrestre dans la région où va se produire les tremblements de terre, ce qui est anomalie qui s'est traduisée notamment par exemple par les débordements de puits, là où les populations ont l'habitude de puiser de l'eau dans des puits. Ou aussi en Chine, on avait mis certaines espèces de poissons dans des étangs. Et lorsque dans une région qui allait être frappée par des tremblements de terre, ces poissons manifestaient une agitation, et c'est ainsi que, par exemple, comme pour signaler qu'il y a quelque chose de se produisait, c'est comme ça qu'en 1978, en Chine, on avait pu, pas prédire, mais pressentir qu'un tremblement de terre de magnitude 7,8 allait se produire.
Oui, là vous parlez de la Chine, professeur, mais on a suivi Jacques Dureuil, excusez-moi professeur, Jacques Dureuil a dit qu'il y a moyen quand même de travailler au niveau de la prévention, notamment dans l'habitat.
Est-ce que vous avez le problème? Ça c'est la prévention des dégâts.
Oui.
Mais dans la prédiction que le tremblement de terre va se produire, c'est-à-dire être à même de dire
tel jour,
à quelle date le tremblement de terre va se produire, avec quelle intensité ou avec quelle magnitude et à quel endroit, pour le moment, la science n'est pas assez, n'a pas atteint ce point-là.
Oui,
donc,
mais
des anomalies, des anomalies géophysiques comme indice précurseur, et notamment dans la production de ce qu'on appelle des séismes précurseurs, prémonitoires.
Oui, mais par rapport à l'habitat, comme il a dit, pour le cas de Bukavu.
Par rapport à l'habitat, évidemment, si nous prenons une région comme le Japon, où les tremblements de terre puissants se produisent un peu partout, si on n'avait pas amélioré l'habitat, le Japon enregistrait à chaque tremblement de terre des dégâts et des décès en nombre excessivement élevé.
Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'habitat de Bukavu?
L'habitat de Bukavu, l'habitat de chez nous, se fait sans tenir compte des normes parasismiques. C'est-à-dire, c'est l'architecte qui doit concevoir la structure, l'armature à donner à la maison pour que, connaissant l'intensité optimale qui peut se produire dans une région, pour que cet habitat résiste à la secousse sismique.
Quoi, par exemple, concrètement, pour la population qui vous suit, de Bukavu,
concrètement, je ne peux pas donner les détails parce que je ne suis pas ingénieur, mais c'est par exemple construire une maison avec une fondation armée et ensuite concevoir des colonnes en béton armé, les linteaux, une ceinture en béton armé, c'est de sorte que la maison puisse se comporter en quelque sorte comme un tout non déformable.
On va avoir votre point de vue, monsieur le ministre. Je sais que vous n'êtes pas physicien de formation, à ce que je sache, mais vous avez peut-être un mot à dire sur ce point.
Bon, c'est que le professeur vient de dire, c'est tout à fait vrai. Parce que j'ai eu quand même ce soir à visiter deux ou trois maisons, dont la maison du président de l'Assemblée nationale. Effectivement, on a trouvé des problèmes au niveau de l'intensité. Et je pense à ce niveau-là qu'il y a eu des problèmes. Mais quand vous regardez les autres maisons, il y a des fissures. Mais ce n'est pas grave. Mais quand, par contre, vous regardez les maisons construites dans les années 60 et 59, ça a eu beaucoup de problèmes. Et moi, je pense que le professeur, il a tout à fait raison. Moi-même, je ne suis pas un ingénieur. Mais moi, je pense que ça ne va pas être seulement pour la ville de Bukavu. Je pense aussi même pour la ville de Kinshasa. Et nous devons chaque fois commencer maintenant à prévenir. On ne peut pas commencer à construire aussi en désordre. Il faudrait, à un certain moment, on s'est dit,
au cas où il y a un problème, ça doit se passer comment. Et c'est pour ça que moi je pense que nous devons toujours avoir un architecte, un ingénieur pour construire nos maisons.
Oui. Jacques Durieux, est-ce que vous pensez qu'au Congo, notamment à Goma et à Bukavu, on peut trouver des matériaux qui puissent ne puissent que limiter les dégâts et faire face à ce genre de catastrophes comme le tremblement de terre?
Bon, alors, comme les deux précédents interlocuteurs, je veux dire que je ne suis pas ingénieur spécialisé en architecture parasismique. Ce n'est pas tellement un problème de matériaux qu'un problème de conception des bâtiments. Et les Japonais, comme le disait le professeur Zana, sont très très avancés dans ce problème parce qu'ils le vivent de manière quotidienne. Je pense que ce séisme de Bukavu pourrait aujourd'hui servir, je dirais, d'exemple pour différentes zones de la République démocratique du Congo qui sont menacées par des tremblements de terre futurs, pourrait servir d'exemple ou de sonnette d'alarme pour dire maintenant aux particuliers comme aux autorités, nous pouvons essayer de limiter les dégâts d'un futur séisme. Et cette limitation des dégâts passera par l'application de normes parasismiques dans l'architecture.
Voilà, là nous parlons évidemment du tremblement de terre, mais vous êtes à Goma, je rappelle que vous êtes chef du projet des Nations Unies, unité de gestion des risques volcaniques à Goma. Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui que l'État, par exemple, du centre volcanologique l'observatoire, je veux dire, volcanologique de Goma, peut aujourd'hui prévenir, par exemple, d'éventuelles éruptions volcaniques au niveau de Goma?
Alors, l'Observatoire volcanologique de Goma bénéficie d'un système de surveillance, d'un réseau de surveillance qui fait appel à différentes techniques qui, aujourd'hui, sont, grosso modo, suffisantes pour surveiller l'activité volcanique. Donc, ce qui est important, c'est que ces réseaux soient actifs, que les chercheurs soient bien sûr au travail et que la surveillance soit permanente. Une future éruption volcanique émettra des signaux précurseurs quelques jours, quelques semaines ou quelques mois avant son arrivée, et les réseaux de surveillance sont là pour enregistrer ces précurseurs. Après ça, bien sûr, il y a un travail humain qui est le travail d'interprétation des données, mais tout ce système devrait amener à une prévision d'une future éruption, et à ce moment-là, les mesures appropriées devraient être prises par les autorités pour protéger la population d'une éruption qui serait annoncée.
Oui. Est-ce que le centre est à même de faire tout ce que vous dites, la surveillance permanente, et est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour faire ce travail?
L'équipement actuel est suffisant. Je crois qu'il vaut mieux avoir un équipement pas trop nombreux mais bien utilisé plutôt que de déployer des dizaines ou des centaines de capteurs différents que l'on ne peut pas gérer. À mon sens, le réseau actuel, bon, il mérite peut-être certains petits aménagements, et nous y pensons, mais le réseau actuel me semble suffisant. Il faut optimiser son utilisation, et nous aurons des bons résultats.
Est-ce que, professeur Zana Ngontoni, est-ce que le centre de recherche en géophysique, j'imagine que vous travaillez aussi dans ce sens-là, pour aider notamment l'Observatoire volcanologique de Goma, comme le dit Jacques Durieux, vous êtes à mesure aussi de mieux faire votre travail pour être plus utile à cet observatoire?
Bon, en principe, le Centre de recherche en géophysique est une entité nouvelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, nos activités se concentrent essentiellement en magnétisme, mais notre projet est de pouvoir mettre sur pied un réseau géophysique national. Et dans ce cadre-là, comment dirais-je, nos objectifs en ce qui concerne, par exemple, la volcanologie, ce n'est pas de se substituer à l'observatoire, mais de pouvoir répondre à d'autres questions, c'est-à-dire, nous aurons des stations sismiques qui seront très éloignées des volcans, mais qui pourront apporter des éléments d'un genre tout nouveau. Par exemple, sur le plan scientifique, le problème que nous nous posons, le volcan Nyiragongo-Nyamulagira et tout le complexe se trouvent dans une zone de fossé tectonique. Mais est-ce que ces volcans, leur mécanisme, leur origine, est intimement lié au fossé, au phénomène de rift? Ou bien c'est des volcans qui seraient comme les volcans des îles Hawaï dans le Pacifique, ce qu'on appelle un point chaud. Et la question vient du fait que lorsque nous regardons notre rift, le volcanisme est un peu éparpillé. Nous avons des volcans vers Boutembo, même s'ils sont vieux et apparemment éteints. Nous avons des volcans tout autour du Bukavu.
Donc vous estimez que ça demande
des études. Ouais. Mais par contre, quand nous arrivons au niveau de Goma, nous avons une concentration des volcans jamais égalée dans les autres parties du monde. Et par conséquent, les réseaux géophysiques que les centres de recherche en géophysique pourraient mettre dans d'autres parties de la République seraient pour répondre, pour prospecter l'origine profonde du volcanisme de Virunga. Donc c'est une approche toute nouvelle qui n'a en fait rien à voir avec la prédiction des éruptions, mais c'est plutôt pour l'étude de la structure profonde du volcanisme de Virunga.
Merci. Alors, monsieur le ministre, pour peut-être clore ce débat, du moins à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que membre du gouvernement, lorsque vous entendez, par exemple, Jacques Durieux dire qu'il faut certains aménagements à faire au niveau de l'observatoire vulcanologique, et puis ce projet du réseau national géophysique annoncé par le professeur Zana Ndontoni, qu'est-ce que ça peut vous inspirer, vous qui êtes du gouvernement central?
Bon, écoute, j'ai déjà eu la chance de visiter le centre de Goma. Et j'ai eu toute une explication. C'est pour ça que je disais, j'ai déjà vu Jacques à Goma. Et je me disais effectivement que c'était un danger. C'est pour cela que je milite toujours pour la prévention. Mmh. Et moi, je pense que c'est très important. Mmh. Peut-être notre pays n'a pas assez de moyens pour la prévention. Mais je pense que la prévention, ce n'est pas une question aussi de moyens. Mais c'est une question, je dirais, de la méthodologie aussi. Mmh. Et ce soir, comme je vous ai dit, le ministre d'État, Denis Kaloum est en réunion avec les spécialistes qui sont venus de Goma. Je pense effectivement ils sont venus de
l'observatoire.
De l'observatoire, oui, ils sont en réunion. Mmh. Alors, ils vont quand même essayer de nous expliquer qu'est-ce que nous, gouvernement, nous pouvons faire. Okay. Parce qu'effectivement, il y a des histoires qui nous dépassent et nous avons tout intérêt à étudier ou à essayer un peu de comprendre ou à maîtriser. Ouais. C'est ce qui est important.
Voilà. On va prendre des réactions des auditeurs avec vous, Claude Kanta. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, Jean-Claude Touba. Pour Georges Ouélé de Manono Katanga, tout ce qui arrive n'est qu'un manquement du gouvernement central qui ne finance pas la recherche scientifique. Peut-être que poursuit Georges Ouélé de Manono Katanga, le vulcanologue pourrait prévenir toutes ces catastrophes. Joseph Aswande de Mbandaka dans l'Équateur s'exprime en ces termes. Par le biais des spécialistes en la matière, notre gouvernement est appelé à mener des études sérieuses tout en tenant compte des spécificités du relief de la région de l'Est, en vue d'épargner les populations contre de telles catastrophes. Tandis que Julie de Goma au Nord Kivu se demande pourquoi les vulcanologues n'ont pas constaté et identifié le séisme à temps à l'aide de nouveaux instruments qui sont reçus de l'UNICEF pour prévenir la population. Damien de Mbujimayi au Kasaï oriental veut connaître les mesures prises par le gouvernement congolais pour prévenir la population congolaise contre les tremblements de terre à venir. Enfin, les autorités doivent interdire les lotissements dans certains endroits inappropriés, pense le bon Banoulé de Bukavu au Sud-Kivu, car dit-il, les gens construisent en désordre. Fin de citation.
Merci beaucoup, Claude Kanza. On commence par vous, monsieur le ministre. Il y a des questions qui vous sont adressées. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, par exemple, à Georges Ouélé de Manono Katanga, lui qui pense que la faute incombe au gouvernement central, qui, selon lui, ne finance pas la recherche scientifique?
Bon, ça, c'est une opinion, c'est son avis. Vous savez, ce qui est grave dans ce pays, tout ce qui est mauvais, c'est le gouvernement. Je m'attendais à ce qu'on puisse me dire aussi, ce qui est bon, c'est le gouvernement. Mais tout ce qui est mauvais dans ce pays, c'est le gouvernement. Mais ce n'est pas grave. Nous avons un ministère qui s'occupe de la recherche scientifique. Et je vous l'ai dit, le vice-ministre est avec nous ici à Bukavu, il est en réunion avec les chercheurs. Ça c'est pour vous montrer que le gouvernement se soucie de sa population. Bon. Ce qui est vrai peut-être si au niveau de Manono, notre auditeur n'a pas eu l'information, c'est tout à fait normal qu'il puisse s'alarmer. Mais nous devons être conscients. Je pense que nous sommes le seul gouvernement. Quand il y a un seul problème, on essaye de vouloir comprendre ce qui se passe. Je vous ai dit tantôt ici, oui. Moi j'ai déjà eu la chance de visiter le centre de Goma.
Oui, soyez conscients, je vous entends de la fin.
Si, je vais conclure.
Oui.
Si j'ai visité le centre de Goma, c'est plus en tant que ministre. C'est quand je suis arrivé à Goma, j'ai posé des problèmes, on m'a dit qu'il y avait un centre, et je suis allé visiter le centre. Mais si je n'avais pas un intérêt, je pouvais faire autre chose. C'est pour vous dire que nous avons ces soucis-là, les soucis de notre population.
Et que vous allez mettre des moyens pour des études sérieuses, comme souhaite Joseph Assouandé de Mbandaka à l'Équateur.
Absolument, absolument.
Ouais. Et Jacques Durieux, une autre question, elle vient de Julie de Goma, au Nord Kivu. Il se demande pourquoi, ça doit être une dame, elle se demande pourquoi les vulcanologues n'ont pas constaté, identifié le séisme à temps, à l'aide de nouveaux instruments qu'ils ont reçus de l'UNICEF pour prévenir la population.
Alors oui, je voudrais un petit peu revenir sur la question précédente et je dirais un peu sauvegarder l'image du gouvernement. Si aujourd'hui on met 200 millions de dollars sur la table, on ne parviendra pas à prévoir un séisme. Comme nous le disions, le professeur Damien et moi-même, la science actuelle ne peut pas faire de prévision de séisme. Par contre, il y a une très très bonne collaboration du gouvernement avec les instances scientifiques et par exemple le projet des Nations Unies, l'unité de gestion des risques volcaniques, travaille en partenariat avec le ministère de la Recherche. Maintenant, quant au nouveau matériel qui était offert à l'Observatoire de Goma par l'UNICEF, je crois que ce serait mieux que le professeur Zana en parle parce que c'est lui-même qui l'a apporté à Goma.
Voilà. On a une autre question, Damien Dombujimaï, Kassai Oriental, qui veut connaître les mesures prises par le gouvernement congolais pour prévenir la population congolaise contre les tremblements de terre à venir. Je pense que là, il faut peut-être attendre, n'est-ce pas, Monsieur le ministre Jean-Claude Muyambo, il faut attendre peut-être.
Mais on va donner la réponse.
Oui. Voilà.
On ne peut pas prévenir. Voilà. Ce sont les faits
naturels
qui arrivent. Ce sont les faits naturels. Ça arrive comme ça, on ne peut pas prévenir.
Tout à fait. Voilà, on va terminer par... Oui, vous voulez ajouter, monsieur le ministre?
Pardon?
C'est comme si vous vouliez ajouter quelque chose.
Non. Vous avez bien donné la réponse.
Professeur, votre avis là-dessus, où l'on pense que qu'il faut... voilà, c'est cette question même de Julie de Goma. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense qu'avec les nouveaux instruments de l'UNICEF, il y aurait moyen de prévenir la population.
Oui, en fait, ce n'est pas l'UNICEF, c'est le secrétariat permanent pour l'UNESCO qui m'avait consulté au début de l'année passée. Les membres de ce bureau étaient de passage à Goma.
Oui.
Ils avaient vu les dégâts causés par l'éruption de 2002.
Oui, c'est dans
le ils ont donc voulu apporter leur contribution pour améliorer les équipements, disons, pour apporter un plus aux équipements détenus déjà par l'Observatoire volcanologique de Goma. Et donc, nous avons fait un choix d'équipement. Il s'agit des magnétomètres à proton. Ce n'est pas un instrument de sismologie. C'est un instrument qui permet de prospecter les champs magnétiques autour des volcans,
oui,
en vue d'améliorer la détection des poches magmatiques en formation.
Bref, ça ne peut pas prévenir.
Donc, ça ne peut pas ni prévenir, ni prédire une éruption, ou moins encore l'occurrence d'un séisme.
Voilà. Merci. C'est peut-être avec vous qu'on va terminer. Bien sûr, il y avait une question sur le lotissement avec le bon Baranoulé de Bukavu. Vous avez suivi sûrement les réponses du ministre Jean-Claude Muyambo et même de Jacques Durie, ainsi que du professeur. Il faudrait améliorer aussi l'habitat, comme ça se fait ailleurs, notamment au Japon, pour éviter ce genre de catastrophe. C'est par ici
que nous mettons fin à cette émission au nom de Nadine Poula qui est à la réalisation, William Lungamba à la mise en onde et Claude Tianza à la préparation de cette émission, Jean-Claude Ntumba Kamanga devant ce micro. Nous vous disons merci à tous de nous avoir suivis.
Oh, Kathy, oh, Kathy.